Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un téléphone sonne grand format. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le standard est déjà ouvert. 01 45 24 7000 sur Twitter, ça marche avec hashtag Telson. Et puis bien sûr, il y a aussi le courriel telson@radiofrance.com et l'application France Inter. Voilà les outils, servez-vous-en, appelez, écrivez, questionnez, témoignez, ces deux heures sont pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Première heure, jusqu'à 19h, on va parler de la vie au boulot, des droits et des devoirs des employeurs et de leurs salariés, avec tout un plan de sauvetage de l'économie, avec le chômage partiel, le télétravail, et puis des mesures dérogatoires. C'est en train de s'organiser, la vie au boulot, et c'est normal, ça fait débat. Deuxième heure, là on va compter sur votre franchise. Depuis le confinement, vous passez plus souvent qu'avant chez le caviste. Vous vous autorisez sans compter des plats réconfortants. On parlera aussi de ceux qui souffrent déjà d'addiction, la drogue, les médicaments, voire les jeux vidéo. Vous sentez que vous faites des excès, que vous frisez le dérapage, la sortie de route vous guette. Rendez-vous de 19h20 à 20h. Mais tout de suite, les informations, c'est avec Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Alexandra. Tragique litanie que celle des bilans quotidiens liés à la pandémie du coronavirus, et ce samedi n'échappe pas à la règle. Le dernier bilan fait état de plus de 26 000 morts et quelques 600 000 personnes contaminées à travers le monde. En France, soulager les hôpitaux des régions les plus frappées par le coronavirus, voilà tout l'enjeu des transferts de malades qui s'accélèrent ce week-end. Des transferts qui témoignent en particulier de la saturation de certains établissements et notamment en Île-de-France. Nous nous intéressons également à la situation dans les EHPAD affectés par le manque chronique de moyens. Et puis, nous écouterons également le Premier ministre, Édouard Philippe, lequel est en train de s'exprimer en ce moment même.
France Inter.
11 jours après le début du confinement obligatoire, le dernier bilan officiel de l'épidémie de coronavirus en France fait état de près de 1900 décès enregistrés dans les hôpitaux et plus de 29 000 cas de contamination, dont 3 700 patients actuellement en réanimation. Et au regard du nombre de morts qui s'annoncent, eh bien, une question se pose. Édouard Philippe, Agnès Buzyn ou d'autres passeront-ils les prochaines années à se défendre en justice? Au plan pénal, au moins 6 plaintes sont arrivées à la Cour de justice de la République, et puis des recours administratifs existe d'ores et déjà au point d'influer parfois pratiquement en direct sur les décisions du gouvernement. C'est ainsi par exemple que les deux syndicats de médecins qui réclamaient un confinement total ont réussi à contraindre le gouvernement à durcir les règles. En revanche, et on vient de l'apprendre, le Conseil d'État vient de rejeter les 3 requêtes urgentes de syndicats et associations de soignants. Sophie Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Ces 3 requêtes concernaient tout à la fois les tests de dépistage, l'usage de l'hydroxychloroquine comme traitement donc contre le Covid-19, ou bien encore, Sophie, la protection des soignants.
Exactement, et sur le traitement à la chloroquine, eh bien, les études menées à ce jour souffrent d'insuffisance méthodologique selon le Conseil d'État. En particulier, l'étude menée à l'hôpital de Marseille par le professeur Éric Raoult, menée sur 26 patients, mais certains n'ont pas été analysés. Et l'étude n'a parallèlement pas eu lieu avec un groupe témoin comparable, comme c'est normalement le cas, relève le Conseil d'État, qui met en exergue une autre étude chinoise, celle-ci qui date de février et qui n'est pas plus probante, qui ne permet pas d'affirmer que l'hydroxychloroquine est efficace pour soigner le Covid-19. L'essai clinique européen qui a été lancé par le ministre de la Santé, lui, n'a pas encore livré ses conclusions. Il ne les livrera que dans une dizaine de jours, et ce sont ces conclusions qu'il faut attendre selon le Conseil d'État, qui rappelle que la chloroquine a des effets secondaires, notamment sur le rythme cardiaque. Alors si elle était prescrite par un médecin de ville, eh bien, il faudrait un suivi. Ce soir, donc, le Conseil d'État rejette la requête des associations de médecins et de soignants qui voulaient élargir les prescriptions au-delà des cas de patients hospitalisés dans un état grave pour le traitement à la chloroquine. Les magistrats du Conseil d'État qui rejettent également, vous l'avez dit, les requêtes concernant les tests de dépistage et concernant le matériel de protection. Grosse colère ce soir des associations de soignants qui avaient déposé ces requêtes.
Merci Sophie Parmentier. Alors même si le Conseil d'État vient donc d'adresser une fin de non-recevoir aux syndicats et associations de soignants, quoi qu'il en soit, l'objectif, on l'a compris, avec cette multiplication des requêtes reste toujours le même, mettre la pression sur un gouvernement dont la cote de confiance s'érode s'agissant de sa gestion de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, preuve que l'exécutif tente de garder le lien quoi qu'il en coûte, après qu'Emmanuel Macron a lui-même jugé utile de s'exprimer ce matin dans la presse italienne pour nier tout éventuel retard français dans la gestion de l'épidémie. Édouard Philippe est lui en train de s'exprimer en ce moment même. On l'écoute.
Nous vivons depuis quelques semaines une crise sanitaire sans précédent. Sans précédent depuis au moins un siècle. Les mesures que nous avons dû prendre pour y faire face sont exceptionnelles. Jamais un confinement généralisé du pays n'avait été mis en place. Nous devons collectivement faire face à un défi considérable, fournir un effort intense, un effort qui va s'inscrire dans la durée. Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer.
Voilà, le combat ne fait que commencer et les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficile que les 15 jours écoulés, a encore précisé Édouard Philippe. Alors, en réalité, le chef du gouvernement avait déjà pris la parole hier pour annoncer non seulement la prolongation du confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de mardi, mais aussi prévenir que la situation allait être, je cite, difficile dans les prochains jours. Et pourquoi ? Parce que l'épidémie risque de mettre à saturation les hôpitaux, et en particulier en Île-de-France. La capacité d'accueil des hôpitaux de la région parisienne pourrait atteindre ses limites sous 24 à 48 heures. Je vous propose d'écouter l'analyse de Romain Sonneville, professeur de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bichat à Paris, interrogé dans le journal de 13h par Yves Decamp.
Un des points les plus importants pour nous au niveau de la réanimation, c'est la disponibilité des places de réanimation qu'on dit lourdes, hein, donc qui permettent un accès à la ventilation artificielle, hein, qui est une place importante du traitement de ces patients. Et donc on voit effectivement que ce nombre de places se réduit jour par jour. Et donc on espère qu'on va pouvoir faire face, mais c'est très 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 compliqué.
Alors on parle d'un week-end test, c'est vraiment le cas, tout se joue ce week-end ?
C'est clair que ce week-end, la gestion des lits restants va être déterminante. Il va falloir faire sortir des patients, il va falloir libérer des lits puisque l'afflux de malades augmente. Et donc c'est clair que là, tous les médecins de l'hôpital sont sur le pont. On est vraiment complètement mobilisé. Et effectivement, on espère que le week-end va passer et qu'on va être en capacité de déployer ce qu'on a prévu localement et sur l'Île-de-France.
Voilà, Romain Sonneville, professeur de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bichat à Paris. Alors, on l'a bien compris, la vague épidémique pèse un peu plus chaque jour sur les structures hospitalières au bord de la rupture. C'est aussi la raison pour laquelle, afin de soulager les hôpitaux des régions les plus frappées, le transfert de malades va s'accélérer tout le week-end de l'Île-de-France vers le centre Val-de-Loire, mais aussi du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. C'est également dans ce contexte que les médecins urgentistes ont eux lancé aujourd'hui un appel solennel à la mobilisation de l'ensemble de l'économie pour gagner, je cite, la guerre sanitaire. L'association des médecins urgentistes de France considère que la priorité aujourd'hui est d'augmenter le nombre de lits de réanimation en mobilisant l'ensemble des ressources industrielles, logistiques, humaines et notamment en mettant à l'arrêt toutes les activités non indispensables. La situation dans les EHPAD est également source d'inquiétude aujourd'hui dans ces établissements. Aussi, le manque de moyens se fait désormais ressentir avec une acuité particulière. Et c'est ainsi que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé aujourd'hui avoir mis 500 000 de masques à la disposition des EHPAD et des services de soins à domicile. Alors, la remise de ces masques a eu lieu au siège de la région en présence de Pascal Chambert, président de l'association des directeurs des maisons de retraite, lequel applaudit bien sûr et explique au micro de Béatrice Duguay comment va se passer donc la distribution.
L'ARS va faire les distributions pour les établissements, pour les services à domicile, par le réseau des hôpitaux. Et ce qu'il faut surtout, c'est que partout en France, les consignes du ministre soient respectées. Il y a encore des ARS qui osent dire « il y aura des masques dans les établissements ou dans les services à domicile quand il y aura des cas ». Or, bien entendu, c'est quand il n'y a pas de cas qu'il faut absolument avoir des masques pour éviter que le virus ne se propage entre les salariés et les personnes accompagnées à domicile et entre les salariés et les résidents dans un établissement. C'est fondamental. Il faut des masques, y compris là où il n'y a pas le virus. C'est comme ça que nous gagnerons. Il faut que toutes les régions de France se mobilisent. Puis nous savons que nous commençons à manquer de gants et de surblouses dans certains établissements, dans certains services à domicile. Il faudra aussi être vigilant de ce côté-là.
Voilà, Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs des maisons de retraite. Alors à l'échelle de la planète, cette fois-ci, le compteur frénétique de la maladie affiche plus de 26 000 morts et un demi-million de personnes infectées. Les États-Unis ont gagné le triste titre du pays comptant le plus de cas officiellement recensés. Et puis avec un total de 20 000 décès, l'Europe est à présent le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L'Italie et l'Espagne en particulier concentrent à elles seules près des trois quarts des décès et s'affichent donc désormais comme les deux pays du monde les plus atteints.
C'était le journal de Thomas Cluzel. Dans un instant, le téléphone sonne, réorganiser le travail. Jusqu'où nous avons invité le leader de la CGT, le président délégué du MEDEF et un avocat spécialiste du droit du travail pour vous répondre. Mais d'abord, on reste confiné mais aéré. Que faut-il porter pour s'offrir un bol d'air à la fenêtre? La météo est signée Jean-Michel Golinski.
Des conditions plus hivernales que printanières demain avec une perturbation pluvio-neigeuse qui va traverser le pays du nord vers le sud, n'épargnant que les bords de la Méditerranée protégés par le Mistral et la Tramontane. Ailleurs, ondées, pluie et neige à basse et à moyenne altitude en journée seront les caractères généraux du temps avec toujours ce vent de secteur nord-est turbulent, très désagréable et frais sur toute la moitié nord du pays, où les températures ressenties de l'après-midi seront de 4 degrés en moyenne, contre 12 à 14 dans le quart sud-ouest et 16 à 20 sur la Corse et de la côte d'Azur au golfe du Lion.